Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du coup, Florence, tu viens de nous raconter ton parcours. Comment est-ce que t'es tombée dans la mode finalement?
Je suis pas tombée dans la mode. Je pense que j'ai un peu grandi avec, mais de manière toujours un peu éloignée, genre pas si proche. C'était mes tantes, mes grands-mères qui s'habillaient beaucoup, qui avaient des fringues mais qui débordaient de partout, qui empilaient les magazines, etc. Et du coup, ben, je côtoyais ça ben, de manière assez régulière, hein, comme quand on va voir sa famille. En fait, j'ai toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête. Je lisais souvent des magazines, etc. En fait, j'ai grandi. Je me suis lancée, je ne sais pas trop pourquoi, dans de nouvelles études, en fait, pour faire de la philosophie esthétique. Voilà. À la base, j'ai un parcours assez littéraire et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un truc en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, en fait, puisqu'on démarre ça directement en L3, là où je l'ai fait, on parlait d'art, hein, bien évidemment, du coup. Mais en fait, très vite, j'ai commencé à faire le lien avec des choses de la mode. À partir de ce moment-là, c'était aussi le moment où je côtoyais énormément beaucoup de mode et notamment beaucoup d'archives parce que j'étais vraiment une Tumblr girl à fond.
J'adore.
Et du coup, je pense honnêtement, je passais des jours et des jours, enfin en nombre d'heures que j'ai dû passer sur Tumblr, franchement, je dois avoir honte du temps que j'ai passé là-dessus. Mais du coup, je voyais un nombre d'archives mais incommensurable et enfin, c'est ouf quand tu plonges là-dedans et que tu vois tous ces trucs, tous ces photographes. En plus, t'en trouves un, tu cliques sur 5 autres tags. Enfin, ça ne s'arrête pas, c'est infini. Et du coup, je voyais ça. Et en parallèle, j'avais mes études. Et je commence petit à petit à tracer des ponts, en fait, entre ce qui se passe et ce que j'étudie et ce que je vois. Et au bout d'un moment, en fait, dans ce parcours, on vous dit, en fait, prenez les sujets qui vous intéressent. Les profs, ça les intéresse pas que tu parles de Kant, de Walter Benjamin, etc. Ils connaissent. D'autres gens sont passés avant toi pour bien les expliquer, bien faire leur thèse dessus. Maintenant, on est dans un truc où, voilà, faut s'emparer des choses qui correspondent à tes centres d'intérêt, à ta génération, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment penchée sur le travail d'Alexander McQueen parce qu'il y avait des documentaires qui sortaient à ce moment-là, etc. Et je me suis dit, en fait, McQueen, c'est super parce que déjà, il a une approche de la mode qui n'est pas portable, en fait. Clairement, 90% de ses créations, c'est des choses très artistiques, dans le sens où t'as pas envie de les porter, mais c'est très beau à voir.
Parenthèse de Alexander McQueen, designer britannique,
ouais.
Qui a notamment officié chez Givenchy,
ouais.
Et surtout à la tête de sa propre maison, en fait. Ouais. Formation très Savile Row, très tailleur, mais aussi très spectaculaire, et voilà.
Et en fait, très spectaculaire, c'était hyper intéressant parce que ça reprenait des questionnements sur la mode, le happening, la performance, surtout dans pas mal de ses défilés. Enfin, celui qui n'a pas de nom d'ailleurs, qu'on appelle numéro 7, je crois, avec la fille qui tourne, Shalom Harlow qui tourne et qui est aspergée de jet de peinture. On a aussi celui basé sur Jeanne d'Arc, très impressionnant.
Je vais vous montrer ça.
Oui, alors par contre,
continue.
En fait, j'ai commencé à proposer quelque chose à partir de ce que produisait Alexander McQueen et que j'ai commencé à rattacher en fait à des figures monstrueuses. Et là, en fait, partant de là, j'ai commencé aussi à tirer le fil vers d'autres créateurs. Honnêtement, mon intérêt se porte sur une mode qui est relativement peu portable, beaucoup spectaculaire. C'est les Victorian Rolf, c'est les John Galliano, plein de créateurs qui, comme ça, ont vraiment des créations assez spectaculaires, vraiment en mode spectacle.
Designer artiste aussi.
Ouais, voilà, aussi, beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai commencé à essayer de faire des parallèles entre des figures monstrueuses, parce que c'était facile, parce qu'en fait, des figures monstrueuses, ben, il y a beaucoup de documentation, entre guillemets, artistique classique, donc beaucoup du cinéma, aussi beaucoup de la littérature, qui font un peu figure de canon, le vampire, le monstre de Frankenstein, voilà, il y a eu des analyses dessus, on peut les approcher de manière esthétique, et en même temps, moi, ces figures, je les retrouve complètement dans la mode, et la mode elle-même, aussi beaucoup d'Alexander McQueen, s'inspire du cinéma de genre. Il a fait énormément de références à Hitchcock dans
les
plusieurs
oiseaux.
De ses défilés. Ouais, les oiseaux, l'homme qui en savait trop, le tailleur hitchcockien de Vertigo avec ses jupes très étroites, ouais. Très grises, ses silhouettes avec ses cheveux comme ça. C'était ça qu'on retrouvait chez McQueen. Et je me suis dit, en fait, il y a un filon à creuser entre cette mode qui est... qu'on voit au premier abord comme quelque chose de joyeux, de frivole aussi. Et en fait, ce qu'on voit sur les défilés, en fait, non, parfois, c'est pas si joyeux. Parfois, ça vous prend un peu au trip. Parfois, c'est des figures qui sont douloureuses, en fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu explorer. C'était ce versant-là. Et qu'est-ce que ça voulait nous dire de la mode et de comment elle fonctionnait, en fait. Je m'arrête là.
Non, mais c'était absolument.
Peut-être.
C'était passionnant. Ce que vous avez vu à l'écran il y a quelques secondes, c'était le défilé printemps-été de 1999 ouais. Alexander McQueen,
ouais.
Dont tu parlais avec Alain Marlowe. C'était la mannequin qui était au centre, ouais. Qui était en train d'être aspergée par deux bras robotiques.
Ouais.
C'était les débuts de la programmation pour un spectacle grand public, en fait. C'était assez étonnant.
Mm-hmm.
Et là, ce que je vous montre à l'écran, c'est le défilé automne-hiver 98-99, inspiré ouais. de la figure de Jeanne d'Arc d'Alexander McQueen.
Et si tu vas tout à la fin.
Le cercle de feu ?
Oui.
Pardon, je suis un gros geek de McQueen. Attendez, vous n'avez pas l'écran. Voilà, vous avez l'écran. Donc, c'est, comme je le disais, défilé Alexander McQueen, automne-hiver 98-99.
Donc
c'est...
des silhouettes très médiévales, très inspirées de tableaux comme il aimait en faire.
Avec la mini-frange qui revient à la mode
ouais,
aujourd'hui à Berlin et à Paris. Je vous montre le final parce que quand même il est fou. Et tout à l'heure on parlait du coup de la robe Shalom Harlow qui est aspergée par des bras robotiques. Peut-être que vous avez vu passer cette séquence de Bella Hadid pour le défilé Copernic.
Ouais.
Où elle est aspergée d'un liquide blanc.
Ouais, voilà.
Peut-être que c'était une référence à Alexander McQueen. Et là, c'est le final du coup du défilé Jeanne d'Arc. Attendez, il faut jongler entre les deux trucs en même temps. Peut-être que je peux mettre le son, je sais pas ce que c'est le son. Je sais pas comment la mannequin fait pour rester stoïque. Enfin, avec du sang-froid, au milieu des flammes.
Il y a une historique, il y a un autre défilé aussi.
Avec les câbles, la carte mère.
Non, pas la carte mère, celui avec... Une espèce de cage de verre en fait.
Ah oui.
Ouais. Et en fait, je me souviens plus du nom de la mannequin. Il y en avait une, elle avait une robe avec des couteaux, vous savez, les coquillages.
Oui. Ouais.
Et elle les brise en fait pour les besoins de la mise en scène. Et en fait, elle a raconté plus tard qu'en fait, elle s'entaillait les mains. Parce que si vous brisez un coquillage en général, c'est un peu comme du verre. Pas agréable.
Ouais, ça c'est après, c'est les risques. Hein.
Est-ce que Marvin Sarah, Alexander McQueen, c'est un artiste qui vous inspire, un créateur qui vous a marqué ?
Ouais, c'est sûr.
Oui.
Clairement.
Ouais.
Ok, c'était une réponse bref.
Mais... mais je pense un peu tout le monde parce que
ouais.
On en parle pas mal. À savoir aussi, on l'a pas précisé, mais Alexander McQueen est bien évidemment décédé depuis un bon moment.
2010,
donc, ce qui fait que c'est un créateur que on revient très souvent sur ses archives, sur ce qu'il faisait à l'époque. Et même encore aujourd'hui, au niveau des défilés, on essaye de toujours garder cet ADN de Alexander McQueen. Mais oui, c'était,
moi, je
c'était vraiment incroyable.
Que plus le temps passe, plus Sarah Burton essaye de revenir vers l'ADN.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai aussi remarqué. Mais après, voilà, c'est effectivement, ce n'est pas... C'est pas encore 100% du Alexander McQueen comme on a connu,
c'est
mais...
C'est pas possible,
ouais,
de toute façon, c'est pas possible.
Non,
c'est
ça.
Pour moi, c'est de la mode d'auteur. Fin,
ouais, clairement.
Ouais.
Attendez, avant que j'oublie, il y a plein de remarques dans le chat. Il y a Nibler S, je sais pas si tu vois qui c'est, qui te fait une dédicace, qui t'envoie plein de love, Marine.
Il y a plein de gens qui t'envoient plein de love.
Plein de gens, ouais. Mais ils envoient de love à tout le monde, en tout cas. Voilà, il n'y a pas de troll, tout le monde est hyper sympa dans le chat. Cool. Kiki5667 qui plein de love aussi. Voilà, super vidéo. Est-ce que c'est un sujet sur McQueen et Copernic? Bah là, on en parle rapidement, effectivement. Il y a l'Audi78 qui dit ça a l'air trop intéressant, ces ponts entre la mode, le cinéma, l'art, etc. Donc voilà, on va continuer de parler de ton parcours, Florence. Je vais remettre ton Instagram dans le chat. Et en tout cas, du coup, on en arrive au sujet de ta thèse.
Ouais.
Est-ce que tu veux bien nous expliquer brièvement, même si c'est impossible de résumer une thèse?
Surtout qu'elle n'est pas complètement écrite encore. Enfin, ça fait longtemps à écrire une thèse. Et en fait, en avançant, donc, je suis partie de cette figure des monstres. En fait, bon, ça, c'est un travail préliminaire. Je me suis aperçue. Et en fait, je me suis dit comment je peux aller plus loin. Parce qu'au final, moi, ce que je voulais faire, c'était, et j'y tiens, en fait, c'est le cœur de ma recherche, c'était arriver à poser un regard esthétique sur la mode. Donc là, je vais vous faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'esthétique et la philosophie de l'art. En fait, c'est donc soit s'intéresser à ce qu'on ressent vis-à-vis d'une œuvre d'art, et philosophie de l'art, c'est partir des œuvres pour essayer d'établir des théories par rapport à l'art, au beau, etc. Et moi, en fait, je trouvais c'est très bien, hein, toutes ces théories d'esthétique et de philosophie de l'art. On en a eu pour le cinéma, on en a eu pour la photographie. Il y a plein de théories qui sont développées sur des nouveaux médiums. Pourquoi on n'en a très peu pour la mode, quand pourtant la sociologie, l'histoire, même un peu l'anthropologie, voire éventuellement même la psychologie, se sont très bien emparées de la question du vêtement. Et je me suis dit, il y a un creux, en tout cas en France, puisque c'est très bien développé dans les études anglo-saxonnes. Ça s'appelle les fashion studies, tout simplement. Et du coup, moi, j'ai un peu voulu m'inscrire dans cette veine-là des fashion studies, vraiment avec un point de vue esthétique. Donc, je pars des créations et j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut nous dire de la mode. Et j'ai pris ce fil-là parce que pour moi, c'est peut-être le plus parlant. Après, ça aussi un attrait personnel. Je ne vais pas parler d'une mode que je n'aime pas, ça ne ferait pas sens. Et je trouve aussi que c'est celui qu'on peut raccrocher aussi à d'autres formes d'œuvres d'art, puisque la mode, je suis obligée de faire des liens avec l'art, puisque déjà, est-ce que la mode, c'est de l'art? Moi, je ne prétends pas répondre à cette question. Pour moi, ça reste un médium à part entière. C'est tout simplement là. C'est une forme d'expression, au même titre que le cinéma, la photographie, la peinture, la sculpture, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai tiré déjà de mes premières démarches, j'ai tiré en fait que la mode, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est au fil de mes recherches que la mode repose sur pas mal de paradoxes en fait. Et je me suis dit en fait finalement, le premier paradoxe, peut-être un des plus qu'on voit le plus, c'est que la mode ça repose à la fois sur la distinction et en même temps sur l'imitation. C'est un double mouvement, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, c'est à chaque fois ça continue et c'est comme ça que ça roule en fait. Et c'est pas parce que c'est des choses contraires que ça ne peut pas exister ensemble. Et moi, j'aimais bien, en fait, justement, ces paradoxes-là de la mode, puisqu'il y en a d'autres aussi. Et je me suis dit, quoi de plus paradoxal, en fait, que la figure du mort-vivant, qu'un truc, en fait, qui réunit deux choses qui ne devraient absolument pas être ensemble, a priori, le mort et le vivant, pour former cette espèce d'être qui est à la fois là, mais qui, en même temps, n'a pas de conscience. Enfin, dans la littérature, c'est défini comme ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais utiliser ça comme une espèce de métaphore, une espèce d'allégorie, cette espèce d'idée de choses qui s'incarnent. Et du coup, je vais la transposer à la mode, parce qu'en fait, déjà, qu'est-ce que c'est un défilé? Parce qu'en fait, un défilé, c'est tout simplement un vêtement qui s'incarne, en fait. Le vêtement, c'est quoi? C'est un truc... c'est imagé hein, ce que je dis, mais c'est un truc mort, c'est un truc qui n'est pas vivant, c'est du tissu, voire parfois des tissus qui ne se dégradent même pas en fait. C'est censé, il y a une forme d'éternité dans le vêtement, et en même temps là on le pose sur un corps vivant qui est très paradoxal, parce qu'en fait on voit bien que les mannequins sont beaucoup interchangeables, on connaît pas souvent leur nom sur les défilés, parfois on les voit juste le temps d'un défilé, c'est pas forcément... Toutes les mannequins qui défilent ne sont pas Bella Hadid. Elles ne vont pas avoir une carrière aussi longue, aussi marquante. Et du coup, je me suis dit, en fait, on a un truc
mort, un objet inanimé, sur un corps vivant, mais qui n'est d'ailleurs, qui est là, c'est de la chair, mais c'est pas vraiment là. C'est-à-dire que sa présence, son identité ne sont pas vraiment manifestes. Ça, c'est pour l'exemple du défilé, par exemple, de comment cette figure du mort-vivant, ça s'incarne. Et en fait, après, je trace pas mal de ponts avec le cinéma, bah, parce que la figure du mort-vivant au cinéma, bah, je ne fais pas de dessin, il y a plein de films là-dessus. Enfin, c'est tout un genre cinématographique. Moi aussi, j'aime beaucoup tracer pas mal de liens avec le giallo, qui est le cinéma de genre italien, qui a parcouru les années 60-70 avant de s'éteindre à peu près, ou de vivoter jusque dans les années 80. C'est un cinéma d'horreur qui est très esthétique, très beau en fait. Pour le coup, il y a une forme de glamourisation. C'est aussi très violent. Je ne vais pas vous mentir, hein, trigger warning, sang, mais faux sang, c'est-à-dire trop rouge. Souvent dans ces films-là, moi j'ai remarqué, enfin c'est là où mes études et mes recherches m'ont menée, bah, il y a des figures de jeunes mannequins, de jeunes... De jeunes femmes, en fait, qui ont des professions de modèle, etc. Et qui finissent bah, parmi les victimes. Et en fait, c'est des... on les ramène, en fait, autant dans ces films que dans la profession de mode, elles sont ramenées à juste bah, des corps pas trop présents, puisqu'elles vont rester 5 minutes à l'écran, qui comptent, mais pas trop. Enfin, elles sont du body count, en fait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, le giallo a compris que se sert de ces... mêmes personnes, de ces mêmes activités, pour faire exactement ce qu'en fait la mode, en fait. Mais à travers le cinéma, et sur un mode allégorique, métaphorique. Voilà. Je suis peut-être partie loin.
Non, t'inquiète.
C'est passionnant. Il faut que je fasse une conférence sur le sujet. Comme ça, on s'assoit, on sort le thé, les pop-corn et tout.
Mais tu fais des conférences. En fait, tu donnes des cours aussi.
Oui, je donne des cours à la Sorbonne. Mais je donne des cours sur des programmes académiques bien définis.
Ah,
hein.
Ok.
Parfois, je fais un petit... Comme ça. Je fais un petit crochet par les sujets parce que... Ben, le thème le permet et que moi je trouve que c'est important et sinon oui parfois ça m'arrive bah, pour valoriser mon travail de recherche de faire des conférences etc voilà.
Et justement ça dit bien aussi qu'à côté d'une thèse bah, t'as intérêt à travailler, enfin, c'est compliqué, c'est lourd financièrement aussi.
Alors ça dépend des cas de figure, moi j'ai pas de financement, du coup j'ai pas de contrat. Il y a des gens qui ont des contrats et qui du coup reçoivent un financement pendant, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3 ans. Moi, c'est pas le cas. Et du coup, oui, il faut travailler à côté. Après, pas vous mentir, je suis bien entourée, j'ai une famille, j'ai un foyer, du coup, moi, je suis bien pour faire une thèse. Après, c'est vrai que. C'est-à-dire que moi, en fait, je donne des cours, mais c'est pas suffisant en termes de revenus. Et après, il faut quand même que je fasse une recherche arrière. Donc, je suis obligée de travailler. Donc, je suis obligée de mener 2 trucs de front. Et à ce moment-là, ouais, il faut un petit peu une gymnastique à la fois intellectuelle et juste de force et d'énergie, quoi.
Ouais, c'est très exigeant financièrement, matériellement, intellectuellement.
Ouais, bah en fait, moi, j'ai la chance d'avoir déjà un petit peu la base, un toit au-dessus de ma tête... un compagnon qui me soutient psychologiquement et après le reste c'est à moi de faire rouler quoi, mais bon l'essentiel est déjà avec moi donc c'est déjà bien.
Et est-ce que vous aviez t'avais une dimension insoupçonnée que t'as découverte en faisant ta thèse, s'il y a des choses que tu soupçonnais pas avant de le faire que t'aurais aimé savoir avant de te lancer?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, c'est une thèse en fashion studies.
Je pensais, avec toute la bienveillance et un peu beaucoup de naïveté, que j'aimais beaucoup mon sujet. Et plus le temps passe, plus les nuances de la mode me reviennent en pleine face, et parfois c'est violent en vrai. Parce que moi, je parle des films d'horreur que j'arrive... En fait, j'arrive plus à encaisser tous les films d'horreur qui sont juste des films, parfois. Et parfois, de lire des récits de mannequins, comme on peut voir des témoignages, hein, parfois sur des vidéos, etc. Et la réalité de la chose... En vrai, au bout d'un moment, tu fais le compte dans ta tête et tu te dis genre, ah ouais... Pff. Enfin, c'est la réalité du milieu, parfois, me revient un peu en pleine face derrière la magie, la beauté, le mystère, etc. Et en même temps, je comprends que c'est pour ça que ma thèse, elle est importante. C'est parce que j'essaye aussi de faire le lien, justement, entre toutes ces choses noires qu'on voit et la réalité du dessous. Ça se voit très bien, d'ailleurs, dans un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, 2018, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle In Fabric de Peter Strickland. Où, alors, avec le talent du réalisateur qui est, bon, voilà, c'est... Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un mauvais film? Je vous laisse juger. Mais voilà, ça remet un petit peu en surface des choses qu'on a tendance à mettre un peu de côté quand on voit les fameux défilés d'Alexander McQueen... de Jean-Paul Gaultier, de Dolce & Gabbana, etc.
Ok, je mets le nom du film et du réalisateur dans le chat. Et,
tu n'as pas aimé.
Non, je ne l'ai juste pas vu. Justement, je croyais que tu allais parler de The Dignian Demon de Nicolas Refn. Mais d'accord, ok. Et donc, on parlait de ta thèse. Et est-ce que tu te projettes sur l'après-thèse? Qu'est-ce que tu veux faire après?
Moi, j'aimerais énormément écrire un livre... et potentiellement pour vous lecteurs l'expurger de toutes ces de toutes les références philosophiques et de les amener de la manière la plus docte et simple qui soit, parce que moi c'est à moi de faire le travail en amont et de trouver mes sources et de bien affirmer ce que je dis, parce qu'en fait c'est ça une thèse, hein. c'est l'après hypothèse. T'exposes un truc, en fait tu balances ton c'est l'équivalent de poser un une équation, quoi. Tu l'écris de A à Z, tu poses ton truc. Donc ça, c'est dur, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est très long. Une thèse, bon, on me demande à minima 300-350 pages, si je suis réaliste.
Wow.
Je pense que je taperai dans les 400, parce qu'on fait toujours plus que ce qui est demandé en général. Et moi, j'aimerais bien, enlever tout le côté un peu lénifiant du truc et rentrer vraiment dans l'accessibilité de la matière. Et de ce que... Parce qu'en fait, l'esthétique, pour moi, c'est hyper, hyper abordable. Puisqu'en fait, l'esthétique, précisément, c'est juste les émotions que t'as en toi face à une œuvre d'art. Jamais rien vu de plus accessible, en fait.
Ouais, tout est esthétique.
J'aurais une question. Est-ce que t'aurais des films d'horreur à conseiller pour un peu plus...
Un milliard.
Enfin, si je pouvais te dire, allez, trois films d'horreur à conseiller...
À des fans de mode.
À voilà. Des fans de mode, oui, clairement.
Pense à nous, s'il te plaît.
Trois.
Trois à ouais. Des fans, des fans de mode.
Est-ce qu'une fabrique, ça compte comme un, déjà?
Moi, franchement, je le compterais comme un. Parce que, en fait, déjà, dedans, il y a un peu une esthétique de ces fameux films giallo, ces films italiens des années 60, avec le faux sang, les trucs un peu... Enfin, vraiment, les lumières, la mise en scène, les trucs un peu chelous. Donc ça, je le mettrais. Qu'est-ce que je mettrais d'autre? Le problème, c'est qu'en fait, moi, un jour, je ne citerai pas ni où ni quand, de peur que la personne se connaisse, je suis allée à une conférence... Et j'ai entendu la première phrase, c'était la mode et le cinéma, c'est un mariage raté. Et genre, rien ne m'a plus transpercé le cœur que d'entendre cette phrase. J'ai genre, mais non, mais quoi? Et en fait, le problème, c'est que les gens pensent que la mode au cinéma, c'est soit des films sur des créateurs, soit des films avec des beaux vêtements. Or, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est juste des films qui dégagent un truc. Parfois, c'est juste un vêtement, c'est juste un truc qui va me fasciner, qui va prendre. Et je vais dire, ah, ce film, désolé, mais il est fashion, quoi. Enfin, genre, il va porter avec lui tellement d'univers, tellement de choses que je pourrais, même s'il n'y aurait pas de lien direct, le retranscrire dans un vêtement ou dans un défilé.
Voilà. Ça, c'était juste
c'était
moi.
Le joker. On ne va pas répondre.
Non, mais en vrai, et c'est du coup, c'est pour ça que je voudrais citer des films qui ne sont pas des films à proprement parler, genre de mode. Mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, un de mes films préférés, c'est Le parfum de la dame en noir. Francesco Barelli. C'est un film des années 60. C'est d'une beauté. Non, surtout, je vous en supplie, ne regardez pas les captures d'écran sur Google Images. Vous allez vous spoiler inutilement la fin. Donc ne faites pas ça. Mais ce film est magnifique. Et il porte en lui tellement de beaux vêtements, tellement cette esthétique des années 60 italienne. Trop, trop belle. Cette robe à pois que je rêverais de posséder un jour. Mais voilà, c'est ça. C'est, pour moi, parfois, c'est juste une apparition, une image marquante. Et je pense que la mode a ce pouvoir de décliner juste des impressions, en fait, quand elles apparaissent dans un film. Le parfum de la dame en noir. Et ensuite, qu'est-ce que je mettrais? Moi, j'aimerais bien mettre... Moi, je regarde beaucoup de films indés, enfin, un peu des trucs des années 60, un peu chelou, etc. C'est Daughters of Darkness, avec Delphine Seyrig, qui est encore un film de vampire. Cette fois, c'est sur le... Enfin, c'est basé un petit peu sur les vampires femmes. Donc, c'est plutôt la Comtesse Bathory, Carmilla, etc. Carmilla, c'est la nouvelle de John Sheridan Le Fanu, qui est une des premières nouvelles de vampires, mais qui est une nouvelle de vampire au féminin. Donc, voilà, il y a des choses avant Dracula qui posent un petit peu la mythologie du vampire. Et Daughters of Darkness s'inscrit dedans. Et Delphine Seyrig, absolument magnifique. Un peu camp, parfois. Hyper belle, vraiment un truc onirique, onirique à souhait, avec des vêtements super beaux, quoi.
Ok. Voilà. Moi, j'allais citer des trucs hyper mainstream, genre, enfin hyper mainstream, beaucoup plus récent. Vas-y. Et connu grand public, mais j'allais parler de Nocturnal Animals, qui est plus un thriller, ouais, de Tom Ford, et The Neon Demon de Ray Fan. Et voilà. Mais est-ce que vous avez des films que vous trouvez très très mode, mais qui sont un peu effrayants quand même? Marvin, Sarah, peut-être.
Moi, je suis pas du tout film d'horreur. j'en ai presque jamais regardé dans ma vie, genre, vraiment.
Moi, j'en ai regardé, je dirais, assez tard, entre guillemets. C'est pas genre un truc que je nourris depuis toujours. Mais j'avoue, une fois, j'ai mis le pied dedans et en fait, j'en suis jamais ressortie, je crois.
Moi, j'ai jamais mis les pieds dedans, en fait. C'est pour ça. J'ai pas encore fait le pas là-dessus. Donc, c'est pour ça que vraiment... Voilà, quoi.
Ok. Toi, Marvin, c'est quoi ton film de mode préféré? Enfin, un film très mode, pas forcément d'horreur.
Non, là, je pensais à Cruella. Enfin, pas Cruella, mais Les 101 Dalmatiens.
Ouais.
Enfin, comme un film avec une figure vraiment camp, justement.
Ouais.
Avec un vestiaire incroyable et puis qui questionne vraiment aussi ce rapport à, bah, justement, le vêtement, la peau de bête, tout ça. Bon, après, c'est aussi mes obsessions, mais... Là, comme ça, j'ai pas trop de films qui me viennent.
Alors,
je pensais à ça, mais...
Je penserais en rajouter un, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Alors, c'est pareil, c'est pas un film de mode, enfin, ça va pas parler de fashion. Mais genre, May, de Lucky McKee. Je crois que ça date de 2002, mais je suis pas sûre. Je vais rien dire, mais il y a un rapport aux vêtements, et pareil, à la chair, à la peau. Et c'est hyper intéressant comment ce parallèle entre genre le vêtement juste que met l'héroïne May et en fait le vêtement, la chair, les gens, le rapport à l'autre, le rapport à soi, et que tout ça s'imbrique, se coud, oserais-je dire, l'un dans l'autre.
Ok. Merci beaucoup pour ces recommandations filmesques. d'accord, et vivement le bouquin.
Un jour, peut-être.
Ok, t'as commencé à démarcher des maisons d'édition ou est-ce qu'on vient vers toi déjà?
Non, pas du tout. Enfin, déjà, j'attends de finir bien ma thèse. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment un travail de longue haleine. On met vraiment littéralement plusieurs années à écrire une thèse. On revient beaucoup dessus. Jusqu'à ce que ça soit bien, en fait. Parce qu'une thèse, en fait, vous écrivez, vous avez un directeur de thèse qui contrôle un peu, vous dit si vous êtes dans la bonne direction. Et en fait, vous écrivez jusqu'à ce qu'on juge que ça soit suffisamment bon pour passer une soutenance. Donc, si c'est pas le niveau attendu, vous passez pas de soutenance et vous êtes
vous avez, devez retravailler jusqu'à ce que ça soit bien, quoi, en fait. Donc bon, moi, étant un petit peu perfectionniste, je travaille beaucoup, voilà.
Et tu penses que tu vas soutenir quand?
Non, là, je, non, je garde. Je réponds pas à cette question. Je vais porter la poisse, de toute façon.
Ok, ok, pardon. Marvin, ça reste que vous avez des questions pour Florence?
Il y en a plein, mais...
Mais vas-y.
Je me demandais... Enfin, en fait, quand tu parlais du, de la figure du mannequin, enfin, moi, j'ai fait un master en mode, et pendant mon master, j'ai écrit sur les larmes des mannequins. Et en fait, il y avait un point qui rejoignait, j'ai l'impression, ta thématique, justement, quand tu parlais de mort-vivant. Enfin, moi, c'était peut-être plutôt cette question de l'incarnation et de la désincarnation aussi sur le... Sur, on va dire sur scène, sur le podium. Et je me demandais si tu avais exploré dans cette question du mort-vivant la question des émotions ou la question de... Enfin, de l'être, du coup. Pas, la question du, pas que la question du paraître, mais aussi la question de l'être.
Bah, en fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien différencier la question, le mannequin de la personne qui va porter le vêtement, que le vêtement soit portable ou non. Et l'idée que, en fait, le mannequin, enfin, il est traité comme étant un... Enfin, ça... Il n'est pas bien traité dans la mode, déjà, le mannequin. Ça, je pense que c'est...
C'est un cintre.
Bah, ouais, voilà, c'est un peu ça, c'est hyper triste. Et d'ailleurs, enfin, juste un point linguistique bête, mannequin et mannequin, ça désigne un être vivant et un objet, enfin, un stockman ou un mannequin de vitrine, quoi. Coup, ouais. Donc, il y a vraiment... En fait... Dans l'histoire du mannequin, l'objet, on s'est aperçu que plus ça ressemblait à des choses vivantes, plus c'était vendeur. Pareil, on s'est aperçu que quand on faisait défiler des femmes, ça vendait mieux que si c'était juste sur des mannequins inanimés. Donc on les a transformés, mais c'était juste pour l'incarnation. Et après, on s'est arrêté là, quoi. Et en fait, dans cette transformation, parfois, et c'est là où ça devient vraiment un petit peu fucked up et un peu... Enfin, tu sais, comme dans les films d'horreur où tu spirales et où tu sens que le truc est en train de devenir pire, mais tout en gardant ce qu'il a pris du début. C'est qu'en fait, parfois, on demande aux mannequins de se comporter, des mannequins vivants, de se comporter comme des mannequins objets. Il y a plein de photoshoots sur ce sujet-là. Je pense à des photoshoots faits par Steven Klein, notamment, où on voit les mannequins... Enfin, il y a un truc confusant, voire limite un peu angoissant, où on voit le mannequin qui est en train de devenir... Enfin, un mannequin vivant qui est en train de devenir un objet sur une photo ou sur un truc. Et du coup, moi, je dis, est-ce que la mode les traite vraiment comme des êtres? Alors, déjà, ça dépend des mannequins. Je pense qu'il y a des mannequins qui sont traités comme des objets vivants. C'est les supermodèles. Elles ont une identité, elles ont un prénom, elles ont un visage. Est-ce que c'est le cas pour toutes les mannequins? Non.
Ok, c'était hyper tragique comme réponse.
Non,
mais c'est la condition des mannequins.
Hein, oui, bah.
Ouais, bah, je vous ai mis plusieurs références dans le chat si vous voulez lire sur le mannequin, la condition des mannequins, la précarité des mannequins, les violences sexistes et sexuelles qui gangrènent le mannequinat, si vous voulez encore plus de tragédie. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques, Sarah, Marvin?
Non.
Faites pas vous timide. Dans le chat, en tout cas, si vous avez des questions, allez-y. En tout cas, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bienvenue.
Ah, j'ai une question, moi.
Vas-y.
Est-ce que tu t'es intéressé à la figure du zombie aussi, du coup, dans ton...
Oui, mais du coup, j'aimerais bien ramener ça à... Enfin, vraiment, la mythologie du zombie. Et comment, en fait... moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment on est passé d'un fétiche, donc de prendre des résidus de vêtements pour en faire des fétiches, en fait, des petites poupées vaudou, à aussi cette question du zombie tel qu'il est dans la mythologie, où c'est une personne qu'on a un petit peu ensorcelée, d'amener et qui devient sans âme et qui du coup est là pour effectuer en fait des tâches. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la mode sur un mode un petit peu allégorique et sans le savoir, elle fait un peu pareil en fait. C'est-à-dire qu'elle fétichise le vêtement, elle en fait un vrai fétiche, dans le sens où on met beaucoup de sens et de signification dans une jupe ceinture. Non mais parce que c'est hyper important de faire le lien avec des trucs qui existent vraiment, parce que c'est comme ça qu'on comprend. Et on met beaucoup de choses dans un petit bout de tissu, on met énormément de choses, on met du marketing, on met du sens, on met plein de choses. Et en même temps que, de l'autre côté, tous ces corps-là, elle fait le processus inverse, où elle les vide, quoi, littéralement. Enfin, en tout cas, parfois, c'est l'impression que j'en ai. Il y a 2-3 élus qui arrivent quand même à maintenir leur identité et à pas devenir un zombie, quoi.
La mode, ce film d'horreur permanent.
Bah,
c'est renouvelé chaque saison.
Voilà.
Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vertigineux aussi.
Ouais, oui.
C'est
clair. Non, mais tu vois, c'est ça que je te dis quand je prends la conscience de mon sujet. Et parfois, ça me revient à la figure et c'est pas super agréable, en fait, comme constat.
Ah, mais c'est une industrie hyper violente.
Ouais,
hein,
non, non,
t'as raison. Et les mannequins en particulier, c'est surexposé aux violences, mais même les petites mains aussi.
Ouais.
Les ouvrières textiles, surtout en début de chaîne, ou en bout de chaîne, ça dépend dans quelle saison on le regarde, mais c'est ok, d'accord. Il y a Graflou dans le chat qui demande c'est quoi tes projets ? Ce qui est une vaste, vaste question.
Alors là, pour l'instant, j'avoue, je ne sais pas. J'aimerais bien...
boucler ta thèse.
Ouais, déjà, en fait, je pense que ça, c'est mon goal principal, là, boucler la thèse. Et après, je sais pas, je sais que j'aimerais beaucoup développer cette veine du cinéma d'horreur un peu indé, peut-être plonger complètement là-dedans.
Et réaliser ?
Ah non, 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 non. Moi, j'écris.
Ok, ok.
mais j'aimerais beaucoup, plonger là-dedans et écrire. Toujours écrire.
Des bouquins, ok, mais et un scénario.
Alors, en fait, le problème, c'est que quand je suis face... Non, mais ça, c'est hyper personnel, mais en fait, quand je suis face à un film d'horreur, je crois que 90% du temps, j'arrive à deviner tout ce qui se passe ensuite. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à m'auto-cheat pour trouver un truc que moi-même, je trouverais pertinent et que je ne viendrais pas à venir. Je crois que c'est un peu trop de... C'est un peu trop de retournement de cerveau...
Ok, peut-être un scénario collaboratif où vous pouvez vous surprendre mutuellement.
Pourquoi pas.
Ok, d'accord.
Un truc très léché, très esthétique.
Ouais, bah j'ai hâte de voir ça. J'espère que ça peut se faire et hâte de te lire quoi qu'il arrive. Écoute, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou Marvin, Sarah, on peut passer à l'interview de Marvin du coup maintenant.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.